Vous écoutez
RMC.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. François Pinet.
De retour dans l'After à 23h avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty, toujours là évidemment pour parler, débriefer cette large victoire lyonnaise face à Angers, 6-0. Dans un instant, on sera avec Fred Hermel pour parler de la défaite du Barça battu 1-0 par l'Athletic Bilbao. On lui demandera comment a été Griezmann notamment, ou encore De Jong. Ça, c'est spécialement pour toi Kevin, puisqu'à chaque fois qu'il y a un Hollandais, il veut savoir comment il a joué. Et puis on parlera aussi avec Paulo Breitner du début difficile du Bayern face au Hertha Berlin, 2-0 avec un doublé de Lewandowski. Avec Fred Hermel, on parlera aussi de cette info. Je ne sais pas si vous arrivez là, si vous écoutez RMC seulement maintenant. Le Barça qui a un accord de principe pour prêter Coutinho au Bayern. Voilà, c'est Guillermo Amor, des dirigeants, ancien joueur et dirigeant du Barça, qui a confirmé cet accord pour le prêt de Coutinho au Bayern, ce qui peut avoir des conséquences évidemment pour l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain. On en reparlera dans un instant.
On va avoir une page mercato.
Et il y aura une page mercato avec Oussem Loussaïef. C'est matin, toi qui fais le conducteur maintenant.
Ouais. Non, je voulais juste savoir.
Non, mais oui, il y aura la page mercato vers 23h40, comme d'habitude, avec plein d'infos d'Oussem Loussaïef.
Qu'est-ce que t'es bon, Franck.
Exactement. Romain, dans un instant, au 32-16. On continue de parler donc de ce Lyon face à Angers. On parlait justement d'intégrer Jeff Rennes-Adélaïde. Le mercato est terminé là, c'est bon? Il n'y a plus besoin. Tu disais offensivement, il fallait quelqu'un.
La semaine dernière, moi, c'est ce que je disais.
Kevin, toi, tu préférais peut-être défensivement
là,
quelqu'un.
Là, tu as vu, tu parlais du poste d'avant-centre la semaine dernière, mais lorsque Dembélé est sorti, c'est Terrier qui est rentré à gauche et Depay qui est passé dans l'axe.
Donc au final, mais non, moi, ce que je voulais juste, c'était un joueur en plus dans la rotation offensive.
Bah là, Adélaïde, il est polyvalent, donc c'est pas mal.
Ça. Parce que Cornet et Terrier, ça me semblait être trop faible quantitativement. Là, t'as 6 pour 3 postes, c'est très bien. Après, si tu veux vraiment, vraiment faire la fine bouche, même si t'étais et rentré, ils sont le sortir du placard, on sait qu'il est polyvalent. Éventuellement, un quatrième défenseur central, mais ce serait vraiment pour faire
on n'a pas
bouche.
Vu encore hein, ce que valait vraiment cette charnière de Neuer.
C'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Maintenant, je trouve qu'ils dégagent quand même beaucoup de sobriété. Et je pense que la sobriété, c'est très important pour une défense centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de gestes extravagants. Les relances sont simples. On a un Touzard qui est toujours disponible, hein, le fameux Touzarinho. Et donc, il est
mieux
vraiment très bon. Et
il est... Moi, je trouve que les deux, ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire contre Monaco et contre Angers. Mais à chaque fois qu'il y a eu une intervention à faire, je trouve qu'ils avaient beaucoup de personnalité. C'était tranchant. Alors, parfois, Andersen, on sait qu'il est très bon, mais... un petit peu limite sur certains placements. C'est le début de saison, il faut qu'il prenne ses marques avec Denayer. Mais Denayer, à chaque fois qu'il a eu à intervenir, vraiment très très fort. Donc,
on voit qu'il est.
C'est prometteur comme charnière.
On voit qu'il n'a pas été nommé capitaine pour rien par Silvino parce que ça a l'air vraiment d'être un leader. Alors, c'est pas le leader, encore une fois, le plus extravagant, mais il a l'air d'être. Assez respecté et voilà choix. Le taulier de cette équipe, de cette défense.
Et puis Lopez qui a fait le travail, à un moment donné il y a eu cette frappe de Pereira Lage et il était là.
Lopez c'est du sûr.
Donc pour l'instant
c'est toujours très fort Antonio.
Effectivement sans faute pour Lyon avec ses 6 points en 2 rencontres, 7 9 buts marqués et 0 encaissé. Romain nous rejoint au 32-16 dans l'after. Salut Romain.
Bonsoir messieurs.
Salut Romain. Alors, bon, vous allez aller les chercher les Parisiens ou pas?
Bonne question.
Évidemment qu'on va les chercher. Ah. C'était une anomalie de pas y aller, surtout. C'était ça, surtout le problème.
On est d'accord.
C'est que Juninho a dit dans sa première conférence de presse, on va aller chercher les Parisiens. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais on va pas les lâcher et puis on va se battre jusqu'au bout pour avoir le titre.
Il a dit et c'est ça qui est encore mieux, c'est que quand il est arrivé, il a dit que l'objectif à terme, pas forcément sur la première saison, ce serait de chercher les Parisiens. Et là, franchement, quand tu vois l'effectif, quand tu vois le mercato, quand tu vois comment ça démarre, peut-être qu'ils vont pouvoir aller les chercher dès cette première saison.
Mais on est Lyon et on doit aller les chercher. On doit les emmerder au maximum.
300 millions de budget, un stade, bien sûr.
C'est à l'image de ce que tente, en tout cas, de faire chaque saison Dortmund du côté de l'Allemagne. Je trouve que c'est un peu comparable avec le Bayern qui, bien sûr, est au-dessus. Et le PSG, chez nous, bien sûr qu'ils sont au-dessus, qu'ils ont un meilleur effectif, qu'ils ont un plus gros budget. Mais les Lyonnais, tu l'as dit, il y a tout. Il y a un stade, il y a un effectif. Maintenant, il y a un directeur sportif et un entraîneur qui sont ambitieux. Il faut y aller, il faut que ce soit l'objectif. Après, le football, on sait comment ça tourne. C'est pas forcément toujours très difficile de prévoir.
Tu as suivi ça d'où, Romain? T'étais au stade ou pas?
Alors moi pas du tout, je suis dans le sud de la France, à moitié sous, dans mon camping là.
Ah.
Mais par contre les gars, j'ai quand même fait mes 3 points, j'ai quand même bossé.
Attends, est-ce que t'as gagné le concours de Mister T-shirt mouillé ou quelque chose comme ça au camping ou pas?
Ah mais Jonathan, moi j'ai un corps de lâche, je peux pas gagner moi.
Mister Camping, non?
Ambition.
Ouais, l'ambition, putain, ouais, t'as raison.
Il va falloir bosser. Tu t'amuses bien, ça va aller, t'es 3 points, mon pote.
Alors, mes trois points. Écoute, je vais être un peu comme Monaco, à deux, trois petites nuances près. La première, sérénité, grande maîtrise. Ça, c'est Silvinho qui l'a imposé. T'as l'impression qu'en fait, il peut rien t'arriver. Et que, en plus de ça, t'as retrouvé une identité de jeu. C'est-à-dire
ouais,
que
ça,
tu
poses
tête, tu construis. C'est, tu vois, c'est réfléchi.
La personnalité. Le pressing.
Exactement. T'as quelque chose. C'est pas des longs ballons et Dembélé se débrouille. Tu vois, c'est vraiment, c'est construit, ouais. C'est peaufiné, c'est travaillé. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, ce qui manquait à Lyon pendant des années, c'était l'efficacité. Surtout devant. Moi, je me rappelle des campagnes de Ligue des Champions où Lyon dominait, mais on se faisait toujours avoir à la fin. Là, c'est Angers, c'est Monaco, on est bien d'accord, mais Lyon marque et maîtrise ses matchs. Et tu vois, au final, on se fait jamais peur. C'est ouais. maîtrisé, on se rend le match facile.
C'est vrai. J'ai ça, une statistique pour toi, avant de te laisser finir. Alors, c'était, je crois, la 75e, c'est Edouard Gé qui nous disait 10 tirs, 8 cadrés, 6 buts. C'est incroyable.
C'est magnifique. Ouais. C'est incroyable comme stat. Ouais. Et tu peux voir comme Dembélé, il a été
extraordinaire. Ça souligne le très bon match de Butel, hein, au passage. Mais bon.
C'est et mon troisième point, pardon, c'est la fameuse colonne vertébrale dont je louais contre Monaco, mais qui est toujours là. Et donc Lopez, Denayer, Andersen. Je rajoute Andersen parce qu'Andersen, moi, ça me plaît.
Ouais.
C'est encore un petit peu parfois hésitant, il faut prendre ses marques.
Il prend ses marques.
Mais ça me plaît. Je trouve que dans les relances, il est plutôt pas mal. Mmh. Voilà, il est plutôt pas mal. Denayer fait le boulot. Aouar Toussaint Mendes, franchement, bah, pour l'instant, c'est régal. Hein.
Et devant Dembélé, qui met les buts.
C'est efficace, c'est fort. Ouais. Hein. Franchement, c'est très, très fort. Hein. Allez, les buts, il se les met quand même. Hein. Tu vois, il a des longs ballons longs, il se les amène, il se les met, franchement.
Très bon 3 points. Parfois à Dembélé pour son manque de justesse technique ouais. l'an dernier.
Notamment le premier but où il y a une super passe de Toussaint, on l'a déjà dit. Et derrière, il emmène très bien ce ballon, il résiste au duel. Et cette frappe croisée qui a vraiment surpris tout le monde parce qu'on s'attendait plutôt à ce qu'il ouvre son pied vers le petit filet opposé. Un vrai but d'attaquant.
Une des bonnes nouvelles, c'est de l'avoir gardé parce qu'il était convoqué par Manchester.
Attendez, Romain. Critiqué.
Il était critiqué l'an dernier.
C'était dur parce qu'il vient d'arriver, il change de championnat. Il n'a pas été tout de suite titulaire. On sait que.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Il a quand même
il a mis beaucoup de buts l'an dernier. Romain, vas-y, ta question.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que les latéraux ne montent pas ou très peu avec Silvinho?
Alors,
Monaco, c'est déjà le cas. Alors, peut-être qu'il se dit, on maîtrise de match.
On a l'analyse de Kevin qui a analysé ça pendant la rencontre sur RMC.
Ouais, j'ai analysé un peu ça pour François.
C'était la même question.
Voilà, c'était la même question. Alors, il faut savoir que Juninho et Silvinho, donc plutôt Silvinho d'ailleurs, ont choisi de faire un 4-3-3, on va dire un peu à l'hollandaise. C'est-à-dire, les ailiers sont très écartés. Ils restent vraiment le long de la ligne. Et en fait, ils demandent peut-être pas aux latéraux de trop monter pour laisser justement des situations de 1 contre 1, que ce soit Traoré ou et surtout, on l'a vu, ça a marché avec Memphis Depay. Parce que si le latéral monte, bah forcément il va tenter de créer une situation de 2 contre 1, mais il va amener aussi de l'intensité du côté du ballon. Et j'ai pas l'impression que c'est ce que veut Silvinho. Silvinho veut au contraire sceller ces deux ailiers parce qu'il sait qu'ils ont la capacité en 1 contre 1 d'éliminer leur adversaire. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on voit des latéraux qui montent pas trop. Après il y a pas mal, il y a pas mal de projections vers l'avant également de Aouar et Mendes, et ça permet de garder un équilibre en demandant aux latéraux de rester derrière.
Le fait le plus prégnant, parce qu'on a vu sur les deux matchs, c'est que Thiago Mendes et Oussem Aouar qui entourent Lucas Toussaint sur les deux matchs contre Monaco et contre Angers, il y a beaucoup de situations où les deux sont très hauts en même temps. Donc t'es obligé quand même de garder un certain équilibre et d'avoir Dubois et Koné qui restent un petit peu pour pas que le bloc soit coupé en deux. Tu peux toujours être victime de compte, tu peux toujours te faire prendre sur une phase de transition rapide. Et je trouve au contraire que ça, le fait que les latéraux ne montent pas autant, ça veut pas dire que le projet de jeu il est pas ambitieux. Au contraire, c'est parce que t'as des deux relayeurs qui parfois jouent carrément. Oussem Aouar, on l'a parfois vu quasiment derrière Dembélé.
Jean-Lucas qui rentre et qui marque en entrant dans la surface.
Ils sont toujours
dans
la surface, les deux.
Romain, tu voulais rajouter quelque chose ou
oui,
t'es convaincu?
J'avais deux choses à dire là-dessus. C'est que, effectivement, Jonathan, le fait que les latéraux ne montent pas, ça ne veut rien dire finalement dans le projet de jeu. Mais je pense que de temps à autre, quand même, on devrait utiliser cette arme pour dédoubler, pour faire deux, trois mouvements. Alors voilà, je suis la fine bouche après avoir gagné 6-0, tu vois, mais je pense qu'on devrait utiliser quand même Dubois, qui est quand même bon centreur.
Oui.
Koné, qui est pareil, je pense. Je connais pas sa qualité de centre, mais je pense que c'est pas un mauvais contre-attaquant. Je pense qu'on devrait les utiliser peut-être un petit peu plus. Alors peut-être qu'on le verra par le futur, mais voilà, c'était juste ça, ma petite pointe négative.
Parce qu'il faut vraiment chercher des choses.
Ouais, bon, vous avez quand même mis 9 buts en 2 matchs.
Et par contre, 2-3 fois, ce qui est intéressant sur les latéraux, c'est que j'ai vu Dubois, alors pas très haut, mais au niveau de Toussaint dans l'entrejeu, et prendre lui les deuxièmes relances, les premiers ballons. Et de par sa qualité de passe et son jeu long, c'est une arme aussi qui peut être exploitée, quoi.
Merci beaucoup, Romain.
Merci d'être passé dans l'after. Salut, à très bientôt. Salut. Et bonne saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Un petit mot, puisque j'en parlais dans les trois points de, sur Moussa Dembélé, on en parlait avec Romain. Bon, on se projette, mais l'équipe de France va y avoir la liste bientôt pour les matchs du mois de septembre. Moussa Dembélé, il a sa place? Oui, non?
C'est un peu tôt.
C'est trop tôt.
Sachant qu'un joueur comme Alexandre Lacazette ou un joueur comme Wissam Ben Yedder ne sont toujours pas membres à part entière de ce groupe-là.
Après, Moussa Dembélé, par rapport aux deux joueurs que tu viens de citer, Jonathan, il a quand même une qualité en plus, c'est le physique. Il est quand même, je trouve, plus imposant que les deux joueurs que tu viens de citer.
Après, Lacazette, c'est dur.
Ah, il est quand même plus grand, Dembélé.
Ouais, mais Lacazette, je trouve que dans l'intensité, dans l'impact, il est quand même costaud, quoi.
Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire que on a l'impression quand même que Deschamps cherche un remplaçant à Olivier Giroud. Alors pour moi, ce remplaçant, il est c'est trouvé. Ce serait plutôt Sébastien Haller. Mais Moussa Dembélé peut avoir peut-être une carte à jouer dans cette attaquant qui pourrait jouer en point de fixation, mais qui a quand même la qualité de pouvoir prendre la profondeur. Après, moi, ce que j'ai envie de dire sur Moussa Dembélé, je l'ai dit sur plusieurs joueurs ces dernières semaines, mais c'est la trajectoire de carrière. Tu vois, qu'il soit parti jeune du PSG, ok, pour aller à Fulham, choix intéressant. Il a fait ses preuves. Ensuite, il est parti dans un championnat comme celui de l'Écosse pour briller quand même dans un beau club européen qui est le Celtic.
Jouer la Ligue des Champions.
Jouer la Ligue des Champions, prendre de l'expérience, enchaîner les saisons, enchaîner les buts, et ensuite revenir dans un grand club français. Voilà, je trouve que c'est, on le voit aussi avec Diallo qui a fait à peu près le même genre de trajectoire.
Diallo,
Et je trouve que c'est vraiment très intéressant ces jeunes joueurs français qui sont bien conseillés et qui font les bons choix dans leur carrière.
Voilà, Moussa Dembélé, donc auteur d'un doublé. Aouar, on en parlera aussi peut-être de l'équipe de France dans quelques temps.
Aouar,
est-ce que l'équipe de France joue vraiment le jeu d'Aouar?
Non. Ouais, alors ça, c'est une nuance qui pourrait être débattue. Mais Oussem Aouar, il a le niveau. Il doit avoir le niveau pour intégrer l'équipe de France pour l'Euro. Alors, la saison dernière, il a pas fait une bonne saison. C'est pas tout, voilà, il faut le dire. Il avait pas été très en dessous de ce qu'on attendait de lui. Mais cette saison, si Oussem Aouar est à son niveau, est-ce il a largement le niveau pour au moins être dans le groupe.
Moi, je suis d'accord avec toi, complètement. Mais est-ce que tu penses vraiment que Oussem Aouar, c'est un joueur qui est Deschamps compatible? La transition, la puissance au milieu de terrain, l'activité débordante.
Je vais dire pourquoi oui. C'est que je pense qu'il y a un joueur qui malheureusement, on va voir ce que va donner son début de saison en Espagne, mais qui s'appelle Nabil Fekir, même si c'est pas du tout le même poste.
Il n'a pas joué avec Deschamps.
Qui a quand même été dans le groupe.
Oui, il a
été dans le groupe. J'espère qu'au moins, tu vois, Oussem Aouar aura la chance d'être dans le groupe et d'avoir sa chance sur un match ou deux, et peut-être essayer de forcer le destin. Après, c'est sûr que dans le style, il a pas vraiment le style, la puissance, le gabarit que Deschamps cherche au milieu de terrain. On est quand même à une sélection avec un sélectionneur où on joue parfois avec Moussa Sissoko ou Blaise Matuidi ailier. Mais Oussem Aouar, je suis désolé, c'est un talent qui est rare. Et c'est pas parce qu'il fait un grand match ce soir, ça fait des années qu'on le pense, c'est un talent qui est rare, et j'espère que cette saison, ça sera l'année où il va confirmer. Parce qu'attention, l'année dernière, je le répète, c'était pas tout de la faute de Genesio, etc. Lui aussi est largement passé à côté, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est un joueur vraiment qui a besoin que le style de jeu proposé par son équipe et par son entraîneur lui convienne. Et comme je le disais encore une fois pendant l'Euro Espoir, Oussem Aouar, je l'aurais plutôt vu dans la sélection espagnole que dans la sélection française.
Ah, mais il y a un truc qui...
Tu veux te convaincre.
Il y a une idée reçue, c'est comme... alors, toute proportion gardée parce qu'il est beaucoup moins talentueux, mais il y a des joueurs comme Oussem Aouar ou comme Maxime Lopez parce qu'ils n'ont pas forcément un gabarit imposant.
Mais c'est moi un joueur comme ça qui
récupère pas de balle. Tu regardes juste les stats des deux joueurs. Et tu verras que c'est des joueurs qui récupèrent le ballon.
Mais en équipe de France, qui joue comme Aouar? Quel est le profil qui joue titulaire comme Aouar?
Ah, titulaire, non.
Titulaire, on sait très bien que tu vas en équipe de France, c'est pour un jour espérer être titulaire. Regarde, ouais, tu peux intégrer le groupe, toucher les équipements. Si on t'avait appelé,
t'aurais été en marchant. 23h14 sur AMC. On est dans l'after avec Kevin Diaz et Jonathan. On va prendre Fares qui a fait le 32-16, supporter de Lyon. On n'entend pas beaucoup les supporters angevins. N'hésitez pas sur le hashtag AMC Live à réagir. Si vous pensez d'ailleurs que perdre Rennes Adelaide, c'est quand même très très grave. Mais Fares, avec toi, on va revenir sur la victoire lyonnaise, évidemment. Convaincu à 100% par ce Lyon. Salut Fares.
Oui, bonsoir.
Salut, Fares.
Bonsoir. Non, pas convaincu à 100%. Bon.
Ah, bah alors donne-nous les petites réserves.
Monsieur, la bouche un peu fine.
Non, c'est pas une question de bouche un peu fine et tout. Bon, on va pas se mentir, Angers, c'était vraiment une équipe moyenne.
Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui mettront des valises de buts à Angers cette saison? Je pense pas.
Oui, c'est vrai. Quand tu le vois comme ça, oui, c'est vrai. Mais quand tu vois l'Olympique Lyonnais, attends, une frappe, un but. le goal de Angers, c'était pas ça.
Ah oui, Butel, oui.
C'était vraiment, vraiment, bien pensé pour vraiment pas ça. Après, bon, vous parlez de Aouar. Aouar, on peut pas l'en vouloir. Aouar, il fait son boulot. C'est un mec, il est là, il essaye de créer, il essaye de récupérer, il essaye de tout. Le souci, c'est plus Thiago Mendes. Thiago Mendes, c'est pas quelqu'un qui construit le truc. Il est là, il prend le ballon, je sais pas, on dirait qu'il a l'air perdu. Pour l'instant.
C'est par rapport peut-être à la performance de Touzard et d'Aouar ce soir.
C'est dur.
Effectivement, c'est peut-être un ton en dessous Mendes, mais ça reste quand même.
Dans l'équilibre du bloc, il est important au milieu de terrain.
Mendes, c'est après, un peu. Non. Tu vois,
le pressing, il est important. Si va te répondre, Kevin, sur Mendes.
Alors, dans le milieu de terrain lyonnais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois joueurs qui sont différents.
Complémentaire en plus.
T'as Touzard qui est le défensif, on va dire, même si il est en train d'égayer son jeu, on l'a dit, il est en train de progresser dans les aspects au niveau de la relance, au niveau même de la passe. Mais de l'autre côté, t'as Aouar qui est quand même le créatif, le vrai créatif, le joueur fin techniquement. Et t'as un Mendes qui, lui, est un peu entre les deux. Il sait faire les deux. Il sait attaquer, il sait défendre, il a beaucoup d'activité. Exactement.
En termes de volume de jeu et d'activité, c'est lui.
C'est exactement ça. Ce que je voulais dire, c'est le box to box, le joueur qui sait attaquer, qui sait défendre, qui a beaucoup d'activité, qui compense un peu à droite, à gauche. Pour l'instant, je trouve que l'équilibre dans ce milieu de terrain, il est cohérent.
Et puis,
en toute honnêteté, c'est vrai que, en y réfléchissant, c'est vrai que Thiago Mendes, il vient d'arriver, c'est le deuxième match. Et bon, il arrive quand même à procréer des choses. Il est là, il donne le ballon, il arrive à avancer de l'avant et tout ça. Maintenant, moi, première mi-temps, j'ai insulté tout le long, Moussa Dembélé. J'ai dit putain, mais donnez le ballon. Première frappe, but.
Ben voilà.
Première frappe, but. Donc j'ai rien à dire.
C'est ce que tu demandes à ton avançante, non?
Moi, je sors du stade, là, on est là, il n'y a pas de souci, rien
à dire. Mais Fares, c'est pas ce que tu demandes en avant-centre?
Non, mais je crois qu'il veut dire du bien, hein, mais c'est-à-dire que.
Ouais, non, je demande pas un avant-centre, pas assez, en fait, je demande un milieu de terrain à la Nabil Fekir. En fait, c'est ça le souci. C'est que je demande un mec qui prend la balle, qui fait le crochet, qui met entre les lignes, qui arrive à donner des passes.
Aouar l'a pas fait ce soir.
Sur la louche. Et sur 2-3 inspirations où il récupère le ballon et tout de suite vers une passe vers l'avant et crée une situation dangereuse. Memphis Depay aussi, je l'ai trouvé très dangereux dans son jeu de passe vers l'avant. Et puis tu parles de crochet, de choses un petit peu coruscantes. Memphis Depay sur le but de Jean Lucas quand il met dans le vent le défenseur angevin. Je pense qu'il
Fares, ils ont pris Jeffrey Adelaide.
Fares, on l'a compris, il regrette.
Mais t'es déçu d'être allé au stade?
Moi, je suis un vrai Lyonnais, je suis 100% Lyonnais.
Mais tu t'es régalé quand même au stade.
Et en fait, quand je regarde le milieu, j'aimais bien quand Nabil, tu lui donnais le ballon, tu savais qu'il y avait
espace. Fares, c'est pas le peine à jouir, c'était bien ce soir.
Tu t'es régalé au stade ou pas, Fares?
Hein?
Tu t'es régalé quand même ce soir au stade?
Bien sûr, on était heureux dans
ma vie. On va rester là-dessus alors.
Enfin faible. On était heureux, on était tous
t'as
contents.
T'as chanté un peu Juninho.
Il n'y a pas de souci, on chantait, j'ai appelé tout de suite RMC. Et je pense que cette année-là, on va en mettre des roustes aux petites équipes qui vont arriver, on va leur mettre des roustes.
Ça serait bien parce qu'on rappelle que l'année dernière, un des points faibles de Lyon, c'est justement de paumer contre ces petites équipes.
Bon, merci beaucoup Fares en tout cas. Merci d'être passé sur RMC dans l'after après la rencontre.
François, juste, c'est quand même un peu sévère de dire qu'Angers est une petite équipe.
On peut parler d'Angers, là on a une minute si vous voulez. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que l'événement c'est la victoire lyonnaise.
C'est une équipe qui a été dépassée par la qualité, par l'envie, par le niveau de cette équipe lyonnaise dans ce début de saison, clairement.
Et puis tu perds Jeffrey Adelaide qui avait été énorme la première journée.
C'est terrible. Jeffrey Adelaide cette semaine.
Baoken ne débute pas. On sait que c'est un joueur qui est important.
Oui, on ne sait pas s'il va rester.
Ouais, on ne sait pas encore, mais c'est un joueur qui est important pour eux. En défense, il y a quelques atermoiements, mais tu sais que quand même, ils vont te ressaisir et c'est une équipe qui est solide. Je ne m'inquiéterai pas pour Angers, même si ce soir, ça doit vraiment faire
mal. Il va falloir recruter. Ils ont perdu leur meilleur joueur, Ren Adelaide, cette semaine.
Ils ont leur prochain meilleur joueur, en tout cas sur la première mi-temps, moi j'ai aimé.
Pereira Lage.
Mathias Pereira Lage, j'ai trouvé un joueur très intéressant.
Deuxième bon match. Il était très bon aussi lors de la première journée.
Ça va être très intéressant.
Ça va être quand même difficile pour Angers de se remettre d'un 6-0, non?
Je pense que quand tu vas à Lyon, de toute manière, dans ton carnet de route, Stéphane Moulin est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je pense qu'au mieux, il espérait un match nul, quoi, tu vois.
Oui, bah oui.
Donc dans ton carnet de route, ça change pas grand-chose. Après, tu l'as dit, hein, c'est très important ce que tu as dit. Le mercato l'a décalé, ça tue certaines équipes, dont Angers. Bah ok, on sait pas s'il reste. Santa Maria, il y avait encore des doutes. Ils perdent Jeffrey Nadeleïde là récemment. Donc, mais après voilà, on sait que Angers, il y a la cellule de recrutement, le directeur sportif, c'est carré. Donc on va attendre. Le mercato dure encore une grosse vingtaine de jours. Donc ils vont se renforcer.
On s'alarme pas donc pour Angers, malgré cette défaite 6-0.
Ça bosse d'une manière sérieuse. Il y a un bon entraîneur, il y a un bon directeur sportif, il y a des bons joueurs. Voilà, ce soir, ça fait mal, mais il faut passer à autre chose très vite pour eux.
Allez, on revient dans un instant, dans l'after, Kevin Diaz, Jonathan McCarty. On revient pour parler de foot européen. On va faire le tour d'Europe. On ira en Allemagne avec Paulo Breitner pour les débuts du Bayern, 2-2 contre le Hertha Berlin. Et en Espagne, retrouver Fred Hermel, puisque l'information est confirmée. Coutinho va bien être prêté au Bayern. C'est confirmé par les dirigeants bavarois à l'instant. On revient tout de suite sur RMC dans l'after. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, François Pinet.
De retour dans l'after jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty. Dans un instant, il y aura donc le Mercato Show, puisque Jonathan veut absolument avoir les dernières infos toutes chaudes du Mercato. Il y en a une dont on va parler tout de suite, c'est celle de Coutinho.
Ouais.
C'est donc officiel, il va rejoindre le Bayern Munich.
En fait.
On demandera à Oussem. Prêté donc Coutinho, le Brésilien du Barça, au Bayern Munich. Pas de PSG pour lui. On retrouve Fred Hermel qui a suivi d'ailleurs le premier match du Barça pour RMC. Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fred.
Bonsoir. La défaite du Barça, on va en parler. Ouais. Mais d'abord un petit mot sur cette nouvelle importante vue de
très
France.
Importante.
C'est donc l'arrivée officialisée maintenant par les dirigeants du Bayern de Philippe Coutinho, qui va donc être prêté pour cette saison au Bayern.
Avec une option d'achat en fin de saison prochaine.
Ouais, avec option d'achat.
En fin de cette saison. Donc, mais ça veut dire quoi, prêter? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Hein, on est d'accord. Ouais, hein. Après, c'est pas une vente.
Oui,
ça veut dire qu'il
n'y a pas de liquidité.
Il n'y a pas de liquidité. Donc,
option d'achat, combien,
que...
Fred?
Pardon?
On l'a pas.
Elle n'a pas été communiquée. Mais ce qui nous importe surtout, c'est de voir que le Barça aujourd'hui n'a quasiment aucune chance de refaire revenir Neymar.
Ouais.
C'est ce qui nous importe par rapport à la France, par rapport au Paris Saint-Germain. Le Barça n'a pas d'argent. Donc le Barça avait dans les propositions de joueurs qui ont été faites au PSG lors de la réunion mardi entre Leonardo, Eric Abidal et plusieurs responsables du Barça, Coutinho était vraiment la tête de gondole. À partir du moment où il est prêté, ça veut bien dire que le Barça a abandonné a priori toute idée de pouvoir faire venir Neymar. Si Coutinho avait été vendu, ça aurait fait du cash. Donc là, ça pouvait rentrer dans les demandes, dans du PSG, c'est-à-dire des
mais là,
joueurs
c'est
prêtés,
à la fois
surtout,
un joueur qui aurait pu intéresser le PSG, voilà. Qui va pas au PSG, ouais. et même pas d'argent dans les caisses.
Ben non, il y a pas d'argent. Voilà, donc
ça complique encore plus la situation. Sauf si, je sais pas, ils arrivent à trouver un arrangement avec trois joueurs.
Le joueur qui intéressait, c'était quand même Coutinho, c'est ouais. ça. C'est la personnalité. C'est-à-dire qu'il a toujours été le numéro un dans les tractations.
Ouais, mais et surtout le minimum que Paris demande en termes de liquidité, c'est ce qui peut couvrir le restant des salaires de Neymar, et c'est au minimum entre 100 et 130 millions. Donc
Barça se libère d'un gros salaire qui.
Je suis pas sûr du tout que ça empêche Neymar d'aller au Barça, parce que comme tu viens de le dire, il y a quand même le salaire de Coutinho qui va, on va dire, décharger un peu la masse salariale du Barça. Alors peut-être que ce sera plus compliqué. Nous, on n'est pas dans les détails du dossier, mais il y a d'autres joueurs du Barça qui intéressent fortement le PSG, notamment Semedo, par exemple.
Dembélé.
Semedo, il ne veut pas le même prix.
Ils veulent du cash.
Oui, c'est ça. Et la base, c'est ça. Et la réunion de mardi, il y a Semedo qui a été proposé, mais il y a surtout Coutinho. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont été proposés. Et le Barça a dit, OK, nous, le PSG a dit, nous, on veut au moins 120 millions en cash, parce que on veut faire des achats.
Et cash, hein, Fred. Quand tu dis cash, c'est pas en 3-4 fois.
Ah non, c'est voilà.
Et Fred, alors pour revenir sur rebondir sur cette soirée, puisque le Barça a ouvert le bal aujourd'hui en Liga pour la première journée avec une défaite contre l'Athletic Bilbao. Cette défaite-là, elle peut pas mettre dans la tête des dirigeants qu'il faut absolument recruter Neymar
avec une blessure de Suarez.
Sincèrement, je ne vois pas comment ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas mardi, alors qu'il y avait encore Coutinho. Il n'y a plus Coutinho aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais vraiment, il n'y a pas d'argent au Barça.
Donc sur ce match, on va revenir sur le match quand même, voilà. Cette défaite du Barça. Justement, les performances de Griezmann pour commencer peut-être, parce que c'était lui le plus attendu en l'absence de Messi.
Bien sûr, ça a été très très compliqué pour Antoine, mais très très compliqué. On s'y attendait, mais en plus il a commencé à gauche pendant 33 minutes jusqu'à la blessure de Suarez, parce qu'ils avaient joué toujours en 4-3-3 avec Suarez dans l'axe. Dembélé à droite et Antoine Griezmann à gauche.
Je l'aime pas, en plus sur un côté Griezmann c'est du gâchis, c'est de la confiture au cochon.
Surtout qu'avec Jordi Alba, mais ils se comprennent. Il y a un moment, il y a une paire de balles entre les deux, on voit qu'ils se comprennent pas encore. Après ça vient. Ouais. Ça fait partie.
Mais c'est pas un joueur de côté, Fred Griezmann.
Il l'était à la Real Sociedad.
Mais c'est plus un joueur de côté, c'est un joueur d'axe.
À l'Atlético, il jouait beaucoup sur le côté aussi. Enfin, surtout à l'Atlético, il était beaucoup plus libre. Mais là, la question. Il peut s'adapter. Simplement, on va pas tirer de conclusion hâtive par rapport à Griezmann. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de boulot parce que voilà, dans sa relation technique avec Jordi Alba, un mois et demi d'entraînement n'ont pas encore suffi et c'est normal. Alors après la blessure de Suarez qui a priori va être absent un petit moment aussi parce que déchirure musculaire au mollet, il y en a pour 3 semaines quoi, voilà. Donc il a joué dans l'axe après où il a pas eu un ballon quoi. Enfin c'était ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Griezmann être aussi esselé dans
tu
dans
sais à quoi match. Ça m'a fait penser, Fred, seul dans l'axe, c'était à la période un petit peu de compliqué qu'il a eu à l'Atlético avant qu'il repasse revenir Diego Costa pour l'épauler.
Exactement, donc c'était pas la saison dernière, c'était la saison d'avant.
Et même Dembélé n'a pas aidé son compatriote. Décevant Dembélé.
Donc non, il a été un peu énergique. Mais il s'est fait tacler gravement par Piqué sur la couverture, sur le but d'Aduriz. C'est vrai que le centre de Bilbao vient alors que Dembélé est un petit peu aux fraises, mais c'est pas très classe de la part de Piqué de critiquer, non, pas directement. Sûr, ouais. Mais enfin, entre les lignes, on a bien vu qu'il accusait Dembélé sur son repositionnement défensif.
Donc Fred, tu penses que donc avec le retour de Messi, ça pourrait être une attaque avec Messi à droite, Suarez dans l'axe et Griezmann à gauche? Tu penses qu'il part sur ça?
Ça va être ça. Ça va être comme ça.
La confiture donnée au cochon.
Parce que franchement, Griezmann à gauche, à la rigueur, tu me dis, j'insiste un peu.
Après, au Barça, ça bouge beaucoup.
À la rigueur, tu me dis Neymar à gauche, Griezmann en soutien de Suarez, je dis pourquoi pas.
Il assiste avec
Maintenant,
Neymar.
Maintenant, Griezmann à gauche, vraiment, je ne le vois pas.
Mais Griezmann, il savait très bien à quoi il s'attendait. Le Barça joue en 4-3-3. Voilà, c'est ça.
Mais l'année dernière, il ne jouait pas forcément tout le temps en 4-3-3, Fred, non?
Le Barça, il y a eu des 4-4-2 aussi, mais à partir du moment où il y en a 3, enfin, ça va être compliqué, enfin, c'est-à-dire que, et puis, on a
quand même. C'est quand même le rôle de Valverde, justement.
De trouver la place.
Mais critiqué, là, après cette
défaite,
cette première.
Oui, parce qu'en plus, il a lui-même reconnu son erreur en faisant des changements à la mi-temps. À partir du moment où tu fais sentir, tu fais rentrer Rakitic.
Pour rappel, il n'avait pas fait jouer Busquets.
Ils ont essayé de virer Rakitic et on a perçu que ce soir Rakitic a été le meilleur.
Parce que, rappelle-toi, Fred, l'année dernière, on était enthousiaste sur le début de saison du Barça avec Valverde en disant, il a changé de style du Barça, il est pragmatique, il joue en 4-4-2. Tu penses vraiment que ce 4-3-3, il est gravé dans le marbre, du coup, cette saison?
C'est la culture du Barça. Mais, de toute façon, après, les systèmes. Moi, j'aime pas trop parler de systèmes parce que, à chaque fois que j'ai parlé avec des grands entraîneurs, ils en ont rien à foutre des systèmes. Ce sont les joueurs qui rendent bon les systèmes. Ce sont pas les systèmes qui rendent bon les joueurs. Donc les systèmes ne sont que des dessins sur des tableaux. Moi, Carlo Ancelotti me disait toujours, tu sais, le système, c'est simplement un joueur en deuxième période, quand il est un peu perdu, il se souvient de ce qu'on a dessiné sur le tableau et ça peut le replacer, ça peut le rassurer. C'est pas ce qui compte vraiment aujourd'hui. L'important pour Antoine, c'est pas le système qui fait que ce soir il s'est pas entendu avec Jordi Alba. C'est le manque de connaissances. D'affinité pour le moment, mais ça vient en s'entraînant, ça vient en jouant. Voilà, il faut pas attendre. Et Griezmann, c'est pas parce qu'il a été formé en Espagne et qu'il vient de jouer 5 ans à l'Atlético qu'il va arriver au Barça et que il va s'intégrer tout de suite. Non, le Barça, c'est une philosophie très particulière. Puis il y avait pas Messi ce soir. Et puis là aussi, c'est la Liga. Je suis désolé de revenir là-dessus. La Liga, quand une grande équipe n'est pas à son top niveau, elle ne gagne pas.
Ouais, j'étais un peu taquiné sur ça avant le match, mais c'est vrai quand même que l'Atlético a fait un gros gros match et quel stade, même si on le connaît ce stade, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce stade rempli comme ça,
c'est
sans
Mames, c'est magnifique,
c'est exceptionnel,
une ambiance,
il y a des sacrés joueurs dans cette équipe aussi, hein.
Ouais, voilà. Et puis
Williams, c'est quand même,
voilà, il a failli partir cet été, et l'Atlético est un club riche, hein, parce que c'est un club qui est financé par ses socios et c'est pas un club qui dépense beaucoup d'argent en transfert puisque il ne recrute que des joueurs basques ou affiliés, et c'est vrai qu'Iñaki Williams avait une grosse proposition de l'étranger de la première ligue. Et bon, il va toucher le meilleur salaire de l'Athletic. Il reste ici. Il a fait un très gros boulot. Il s'est procuré de belles occasions. Et puis, on va dire un mot sur Adoris. 38 ans et demi exactement, parce qu'il les a eu en février, hein, ces 38 ans. Donc, c'est 38 ans et demi. C'est quand même un papy. C'est sa dernière saison. C'est sûr.
Et il rentre à
5 minutes de la fin. Et il met une but. C'est une papinade pour les
Il avait mis un super but contre Marseille.
Exactement.
Final qui s'était qualifié.
Oui, oui, mais
c'est Marseille, oui.
Oui,
Marseille. Oui, Marseille. Puis on a vu ce que ça donnait depuis. Mais
bon. Fred, je voulais quand même t'avoir pour dire un mot du Real Madrid. Parce que.
Ah, mais ça va mieux d'un coup, là.
Quand même, le Real Madrid.
Non, mais ça va mieux.
Qui va...
Non, mais sérieux. Ah bon? Non, mais je plaisante pas.
Non, ça va mieux. Plaisante, là. Donc, Celta Vigo, Real Madrid, demain, 17h. Sans Eden Hazard, blessé à la cuisse. D'ailleurs, il est déjà blessé. Peut-être pour 3 ou 4 semaines, c'est ce que disent en tout cas les médias espagnols.
Il faut qu'il se décoigne un peu le pied d'Eden.
Avec Gareth Bale et Rames qui finalement sont de retour dans le groupe alors qu'on pensait que Zidane n'en voulait pas.
Alors quand je vous disais que la crise est finie, mais je plaisante à moitié. C'est-à-dire qu'en Espagne, ce sont les vases communicants. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Barça a perdu ce soir. Il suffit que le Real gagne demain à Vigo, c'est pas fait. Hein. Mais si le Real gagne à Vigo demain,
c'est dur là-bas aussi. Commences... Hein, Fred, hein.
Comment ?
C'est pas gagné, c'est dur là-bas aussi.
C'est pas gagné non plus. De toute façon, c'est gagné nulle part en Espagne. Mais voilà la sensation. Et puis j'avais une question quand même à poser à Kevin.
Vas-y.
En tant que footballeur, il faut rappeler une chose parce que les gens, il y a des gens qui ont critiqué Grégory Dupont, le nouveau préparateur physique de Zizou, à cause des blessures musculaires de certains joueurs. Bon, là, on a vu que Mendy est blessé, blessure musculaire, que Hazard est blessé. Mais là, on voit que Messi est blessé aussi, on voit que Suarez est blessé aussi. Il faut quand même expliquer aux gens, et je pense que tu vas me confirmer, qu'un joueur au tout début de saison est fragile parce qu'il vient d'une grosse préparation, physique de pré-saison, et que c'est toujours difficile de débuter un nouvel exercice, Kevin. Donc le corps est plus fragile à ce moment-là. Donc ouais, c'est pas incroyable ce genre de blessure, quoi.
Non, mais t'as tout à fait raison. Il y a des grosses préparations, notamment. Je pense que Zidane, lui, il est plutôt un adepte de ce qui se faisait à son époque à la Juventus, c'est-à-dire un gros foncier.
C'est un entraîneur italien. Exactement. Ouais,
un gros foncier pendant le mois de juillet, et puis ensuite c'est vrai que répéter les efforts avec également, faut pas oublier les températures en été.
Il fait chaud en Espagne, mais
c'est un peu pareil dans toute l'Europe, donc les températures sont plus élevées, il faut beaucoup s'hydrater, l'alimentation bien sûr, et tous les joueurs que tu as cités, c'est quand même des joueurs qui soit approchent, soit ont dépassé la trentaine. Et une fois que tu dépasses la trentaine, je peux te dire que, alors c'est dans beaucoup de sports, Messi, Suarez, Hazard, c'est des joueurs qui s'approchent quand même de la trentaine ou qui l'ont dépassé. Et je peux te dire que quand tu arrives, c'est des joueurs qui jouent en professionnel depuis leurs 16, leurs 17, leurs 18 ans. Et on l'a vu avec un El Niño, Fernando Torres, c'est des corps qui sont quand même très usés arrivés dans ces périodes. Et là, comme on l'a dit, en préparation, c'est dur.
Hazard, il a 28. Fred,
depuis quel âge?
Bale et Rames,
oui. 17.
Ils vont rester au Real Madrid, alors, du coup, puisque Zidane a changé complètement d'avis.
C'est incroyable.
C'est pas lui qui a changé d'avis. Non.
Ah, si, il a dit.
Attends, j'y étais.
Il parle de Zidane après Zidane.
Parce qu'on dit, il a pas changé d'avis.
Moi, j'écoute Zizou.
Forcé et contraint par la situation.
Voilà, c'est ça.
Fred Hermel nous explique.
D'accord.
Mais il a pas changé d'avis, je peux te
donc
dire.
Il en veut pas.
Simplement, Bale, attends.
Ne sois pas taquin, c'est normal d'exprimer.
J'étais à la con. Je suis veto pour y aller, parce qu'en plus, comme il fait chaud, les entraînements, c'est quand plus tôt. Simplement, il a dit, Bale, il devait partir, il semblait qu'il allait partir, il est là.
Hein. Il dit, c'est un joueur important. C'est pour ça que je te dis, Fred, c'est un joueur important.
Ah, il met un coup de brosse à reluire.
Ça va, il a besoin.
Et à Rames, il dit, je suis content qu'il soit avec nous. Alors bon.
Bah oui, il y a deux, oui, enfin.
Je veux pas dire le contraire.
Mon petit François.
Non, je vais pas faire les naïfs, je sais.
Oui, voilà, tu commences à perdre tes cheveux, t'as plus 15 ans.
Ma question est quand même,
Avec,
non, c'est
pas bon, Fred.
Dans le carton. La tarrette à
on défend notre.
On adore François Pinet. Non,
dès qu'il est dans les cordes.
Mais moi, je suis fan.
Dessus de le physique, hein.
Le carton jaune.
Mais non, mais c'est vrai que t'es plus un innocent, t'es plus un.
Non, mais tu as raison.
Un naïf.
Oui.
Sur le discours des entraîneurs devant la presse, et surtout d'un entraîneur qui ne voulait absolument pas de Bale, absolument pas de Rames, mais comme ils n'ont pas pu être vendus. S'ils doivent rester, autant que ça se passe bien.
D'accord. Mais ça peut bien se passer.
Et c'est
ça
la question. Le mercato, de toute manière, n'est pas terminé pour le Real Madrid.
Il attend toujours Pogba.
Fred, tu me demandais tout à l'heure, quand on est dans un vestiaire, comment ça se passe pour les blessures. Mais là, je vais te dire, quand on est dans un vestiaire et qu'il y a deux joueurs qui sont dans la situation de Bale et de Rames, toute une saison, ou en tout cas, allez, même si ça dure jusqu'à la trêve hivernale, ce que je ne souhaite pas pour Zizou et son Real, franchement, c'est difficile quand même, Fred.
C'est difficile.
C'est difficile parce que les joueurs ils se mangent le cerveau entre eux.
Bien qu'il va aller au Rames, il va bien venir par aller au Napoli et puis Bale, il va bien finir.
Vraiment, je l'espère pour Zizou parce que c'est dur pour lui.
Si tu mets Rames plus Bale et Neymar,
le marché anglais fermé,
ça marche pas ça.
Ah oui, c'est vrai. Pour Bale, ouais.
Ben oui, enfin là, je pense sincèrement que
Rames au Napoli, c'est mort de chez mort.
Non mais Rames plus Bale égale Neymar, ça marche pas cette équation. Plus 100 millions, évidemment.
Non, oui, mais
Neymar veut pas y aller.
J'ai envie d'avoir un Bale et personne ne veut de Bale. Pourquoi Bale continue être ici parce que personne ne veut de lui, même en Chine.
Personne ne veut de son salaire surtout.
Ouais, puis c'est un mec qui n'a joué que 53% des minutes possibles sur 6 saisons. Ouais. C'est pas complètement, c'est pas un mec fiable.
Bon,
donc
Fred,
tu vois, donc c'est.
On va revenir évidemment avec toi sur sur le Real demain.
Et puis moi j'ai plus de cheveux, c'est pour ça que je me suis un peu moqué. Mais
je sais bien, Fredo. Mais
on a dit pas les affaires, pas les mères.
Qui se fout de la charité, mais ça me dérange. Ça...
complètement.
De cheveux, Fredo. Tu sais qui on reçoit, Paulo Breitner. Donc ça tombe bien.
Hein, oh, il est plus trop gardi non plus. Hein, lui.
Non, c'est pour ça. Bon, merci, Fred. Merci.
Voilà, la Liga. C'est ça une Liga compétitive. Il y a des championnats où le champion gagne 5-0 à l'extérieur. Et ben ici le champion perd 1-0.
Salut, Fredo. À bientôt. À bientôt dans la demain, évidemment, sur RMC. Paulo Breitner. Donc à 23h38, on va faire le point sur le début de la saison de Bundesliga. Tout de suite, Paulo, bonjour, avec le Bayern tenu en échec par le Hertha Berlin de but partout, avec le doublé de Lewandowski pour commencer. Mais on imagine que tes craintes sur ce Bayern-là ne sont pas dissipées après ce match nul.
Oui, c'est tout à fait. Mais si tu permets, je vais donner deux petites infos au sortir du match qui me semblent importantes.
Vas-y.
Déjà, c'est la confirmation de Coutinho par que le prêt avec option d'achat.
Si tu permets, on l'a donné.
Pardon,
on l'a fait le job, on l'avait donné, mais c'est pas grave.
Ah pardon.
Autant est-ce que tu as le prix?
Et Renato Sanchez, vous l'avez entendu aussi?
Ah non, vas-y. Non.
Ah bah voilà, il est sorti du vestiaire très rapidement, il a demandé à se barrer. Il en peut plus du Bayern, il a joué encore que 5 minutes ce soir, et donc il a envie de partir. Donc voilà. Donc, affaire à suivre.
T'as une idée, Paulo, d'où il pourrait atterrir?
Ah bah non, déjà il déclare qu'il veut partir, okay. C'est déjà pas mal. On va voir, il faut le trouver en plus. Voilà, alors par rapport au match, évidemment, déçu, oui et non, parce que le Bayern a quand même globalement largement dominé la rencontre. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est toujours un peu brouillon. Il y a certes le de l'engagement qu'on n'avait pas forcément vu l'année dernière, mais sur certains points, on a retrouvé par exemple une défense centrale très très peu concentrée.
Ah bah, t'as l'arnaque devant, Benjamin Pavard, donc t'es refait là.
Ah ben, Pavard, voilà quoi.
La carotte du siècle, franchement.
Hein? Non, mais de toute façon, ça va être un ciseau, ça va être un couteau suisse. Il sera polyvalent, il va faire des matchs de temps en temps, logiquement. La grande déception, en fait, de ce début de saison, c'est que Lucas Hernandez n'a pas pu être à 100% tout de suite. Il était sur le banc, il avait joué 3 minutes en Coupe d'Allemagne, mais il n'est pas complètement prêt. Ouais. Boateng, on ne sait pas trop dans quel état il est. Donc, évidemment, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la première demi-heure du Bayern était très, très encourageante. Gnabry a fait très, très mal à Mittelstädt, le défenseur de Hertha Berlin, et puis bon, il y a quand même deux coups du sort, hein, parce que les buts ouais. De Hertha Berlin, c'est quand même pas gagné. Le problème, c'est que vous l'avez dit, c'est que Pavard, c'est pas terrible.
Il a vraiment pas été bon ce soir, Polo.
Il est mauvais, c'est tout.
Mais c'est pas la question de savoir s'il est mauvais. Lorsque tu fais un duel contre Grujic, tu te prends, ok, il y a un coup de boule des deux côtés, mais il y en a un, il a un œuf de pigeon, il continue à marquer le but, et Pavard, il se bat pas, quoi. Et ensuite, il fait une faute assez importante en seconde mi-temps qui amène juste devant la surface, qui amène un coup franc intéressant pour Duda. Donc voilà, très clairement, ça a été le Bavarois le plus mauvais ce soir. Donc
Polo,
c'est compliqué pour lui.
Juste pour finir avec Pavard, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il disait? Bon, parce que nous, je vais t'avouer que je suis pas tous les matchs de Stuttgart toute l'année. L'année dernière, il avait déclaré que ça avait été l'un des meilleurs défenseurs centraux de cette malgré qu'ils aient quand même été relégués. C'est quand même quelque chose qui est surprenant. Mais il disait qu'il avait été un des meilleurs défenseurs centraux, et c'est pour ça qu'il avait signé au Bayern. Est-ce que tu es d'accord avec ça, honnêtement ou pas?
Non, moi déjà, c'est toujours compliqué de juger un joueur lorsque tu as une équipe qui descend en seconde division. Stuttgart a été une véritable surprise l'année dernière. Ils avaient une équipe construite pour au minimum se qualifier pour l'Europa League. Ce qui est sûr, c'est que moi, il m'impressionne pas plus que ça. Ce que j'aime chez lui, évidemment, c'est sa polyvalence. Mais à part ça, moi, j'ai dit il y a un peu plus d'un an, de toute façon, qu'il n'était pas complètement fini, footballistiquement parlant. Et donc, il a encore besoin de progresser.
Ouais, c'est un jeune joueur.
T'as pas le temps. Le problème du Bayern, c'est que t'as pas le temps de progresser. C'est-à-dire qu'on te demande d'être performant. Alors, si par hasard Nico Kovac décide de passer dans une défense à 3, ce qu'il avait déjà essayé lors de sa période à Francfort et lors des matchs de préparation, c'est peut-être intéressant pour lui, mais il respire pas la sérénité quand même, quoi.
Non, c'est sûr.
Ok.
À côté, sur le même match, c'est l'impression qu'Irem Rekic, c'était un monstre, quoi. Pour te dire.
J'ai pas entendu, excuse-moi.
J'ai dit à côté sur ce match-là, ah oui, t'as même l'impression que Kerim Rekic, c'était un monstre à côté de Pavard, quoi.
Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, quoi.
Et Kerim Rekic, quand même, il fait une sacrée carrière en Allemagne, hein. Parce que.
Ah, bah, l'année dernière, il a été excellent. Malheureusement, il a été blessé pendant un moment. Ce qui est intéressant, au fait, ce soir, quand je parle de la Bundesliga, c'est qu'il y avait 6 joueurs à vocation offensive au Hertha Berlin, ce soir. Ah donc oui. C'est quand même aussi intéressant de voir comment on joue en Bundesliga. Mais pour en revenir en fait au Bayern, ce qui me perturbe toujours, et c'est qu'on a les mêmes caractéristiques que l'année dernière, parce qu'on disait Robben Ribéry était encore là l'année dernière, sauf qu'il était toujours blessé, notamment Robben. Ribéry avait plus 90 minutes dans les jambes. Donc en fait, on a déjà eu le duo Coman et Gnabry. Oui. Et en fait, la grosse différence qu'il y a entre le premier duo et le second, c'est que Robben et Ribéry, ils pouvaient faire la différence par rapport à leurs opposants, mais ils pouvaient aller marquer directement. Là, Coman et Gnabry peuvent faire la différence, mais ils ne recherchent que les Lewandowski. C'est-à-dire que les alternatives au Bayern sont largement diminuées par rapport à la grande période Robben Ribéry, ce que tout le monde oublie dans les analyses. Et ça, c'est un peu pénible. Ça ne fait pas des joueurs du même niveau. Il va falloir, au bout d'un moment, être très très clair. Il va falloir arrêter. Pardon ?
Ça, c'est sûr. Hein,
c'est clair, ouais.
Tu parles peut-être meilleurs ailiers, des 5-6 meilleurs ailiers des 10 dernières années, en tout cas des.
Bah oui, mais c'est ce qu'on dit en Allemagne, c'est the best of the rest. Hein, c'est pas
mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas anticipé, justement, le.
Ils ont essayé, mais.
De Robben et Ribéry.
Qui est parti à la Juve après, ils avaient. Oui.
Ouais.
Douglas Costa.
Alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on se focalise aujourd'hui sur le sportif au Bayern. Mais en fait, le vrai problème du Bayern aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les bureaux. En fait. C'est la succession du Lyonnais, c'est Rummenigge qui va arrêter en 2021, c'est de savoir qui va prendre le pouvoir en fait au sein de l'institution bavaroise, et surtout quelle ligne stratégique on va prendre. Parce que
c'est pas Oliver Kahn.
Pardon ?
C'est pas Oliver Kahn ?
Si, mais le problème c'est la stratégie et qui prend les rênes. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sociétés, il y a quand même des actionnaires du Bayern Munich qui s'appellent Adidas, Allianz et Audi, ils n'ont pas forcément la même vision du football que celle du Lyonnais qui était là il y a déjà 40 ans. Et toutes ces choses-là, bon alors ça évidemment c'est sur les transferts ou les choix stratégiques. Le Bayern Munich c'est quand même un club extrêmement familial qui représente vraiment une région, hein, c'est très important. Et là on va voir ce qui va se passer dans les prochains temps et en fait ce qui se passe depuis 2-3 ans, c'est-à-dire le fait d'avoir continué avec cette génération de joueurs et de ne pas avoir vraiment prévu l'avenir. Eh bien, on le voit, au bout d'un moment, ça coince, quoi.
En plus, ils ont sorti le chéquier cet été, hein. Lucas,
35 millions Pavard, 80 millions Lucas Hernandez,
mais ça, ils l'avaient préparé déjà. Ouais, voilà. L'année dernière, ils s'étaient déjà séparés de plusieurs joueurs. Ils avaient fait, c'était une des grandes surprises d'ailleurs, c'est qu'ils avaient vendu, je sais plus, le Delta était plus de 60 millions positifs pour le Bayern Munich. Donc en fait, ils récupèrent en ce moment. Le problème, c'est qu'on a des joueurs, des bons joueurs, mais est-ce qu'on a des grands joueurs? Ça, c'est la question.
Bah, ils ont quand même eu un manque de réussite avec la blessure de Leroy Sané, quoi.
Oui, qui voulait recruter à Manchester City.
Ça, c'est clair, mais Polo, tu vois tout ça.
On va être obligé d'y aller. On reviendra de toute façon sur le Bayern.
Merci,
et
Polo.
Sur cette saison de Bundesliga avec toi toute la saison, bien sûr. Il y a Dortmund qui joue demain contre Augsbourg, demain à 15h30. Ouais. On
un
suivra
carton.
Ça de très près. Un carton? C'est ça que tu dis?
Un écarissage.
Ah, d'accord, c'est prévu. Ok.
Et est-ce que Schmid de Bar est toujours en Bundesliga?
Pardon, non, bah bien sûr, il est dans le plus grand club du monde, je te signale.
Bon, allez, merci beaucoup, Polo, en tout cas. À bientôt.
Ciao.
Et allez, on reviendra évidemment sur ce match nul de but partout du Bayern face au Hertha Berlin. Dans un instant, c'est le plus beau, c'est le Mercato Show.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. François Pinet.
23h47, on est sur RMC de retour dans l'After, toujours avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty. Demain, ça sera Thomas Desson qui sera à la présentation. Et puis, n'oubliez pas aussi le retour des émissions sur RMC, Team Duga, de 18h à 20h à partir de lundi prochain, avec Jean-Louis Tour, bien sûr, et des nouveautés. Et puis, pas mal de surprises en fin de semaine. Voilà. Je sais pas si je peux le dire, donc, je le dis pas. L'After, donc, ça continue avec.
Un bon melon jambon.
Le Mercato. Avec le Mercato d'Oussem Loussaïef tout de suite.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Voilà, Mercato Show avec cette info très importante, Oussem. Salut d'abord.
Salut, bonjour. Salut messieurs, salut François. Tu m'as très bien lancé tout à l'heure, t'as dit le plus beau, mais tu parlais pas du Mercato, tu parlais de ma présence.
Bon.
Bien sûr,
avant la
pub. Bien sûr. Un catalogue de mode sur vivant. Merci. Magnifique.
J'en attendais pas moins de ta part.
Alors là, tu es devant des millions de téléspectateurs.
Hein. Une audience à sa hauteur, pression. Monsieur.
On commence donc par cette info. On en a parlé un petit peu, donc toi tu le récupères, t'as raison, mais on va en reparler, oui. Parce que c'est important, c'est l'info du jour.
Fin de journée.
Accord de principe entre le Bayern et Barcelone pour Coutinho.
Fin de journée, ça tombe du côté Blaugrana. Accord de principe donc pour le prêt de Coutinho pour le Bayern Munich. Et puis ça a été confirmé juste avant que je rentre sur ce plateau par les dirigeants du Bayern Munich. Le Bayern était en match face au Hertha Berlin, première journée. Deux buts partout. À la suite du match, Rummenigge et Salihamidžić, dirigeants du Bayern Munich, ont pris la parole et ont affirmé que Coutinho arriverait sous la forme d'un prêt, visite médicale dimanche ou lundi, donc pour l'international brésilien.
Voilà, donc pour Coutinho au Bayern, ça c'est une bonne recrue pour le Bayern.
Surtout, pourquoi on en parle, François ? Parce que on sait que Coutinho était dans un deal possible avec le Paris Saint-Germain, donc ça relance le dossier Neymar. Et donc on sait que le FC Barcelone n'a pas beaucoup de liquidités pour parvenir à ce deal. Avec Coutinho en moins dans la balance, ça risque d'être très compliqué de voir Neymar du côté du Barça.
On a tout dit là-dessus, je pense. Pour
je crois qu'on a tout dit. Il y avait Cuisance aussi, dont on a parlé. Aussi
Ça, c'est un bon joueur. Cuisance, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui pourrait rejoindre le Bayern Munich. On parle d'un montant de transfert autour de 10 millions d'euros pour l'international U20.
C'est tout ?
Ouais. C'est pas cher payé.
Bah non, pour le niveau et la qualité du joueur. J'avais vu que Nice aussi était dessus.
Beaucoup de joueurs étaient dessus. L'entourage du joueur que j'ai eu dans l'après-midi au téléphone me disait que ça allait se faire avec le Bayern Munich.
C'est dommage que l'OM ait pas 10 millions à dépenser. Bah, c'est un joueur qui est fan de l'OM en plus.
Ah oui, ça c'est dommage. Ah, oui. Du côté de Monaco, on n'a pas de nouvelles de l'OM.
Prêté à Marseille.
Ah non, je pense pas, parce qu'en plus il y a une possibilité de départ de Renato Sanchez, donc
En Ligue 1, oui. Pas d'infos sur Marseille, hein, tu me confirmes, mais
c'est toujours Jordan Amavi, latéral gauche.
C'est un mercato très mouvementé à Marseille, deux arrivées,
enchaîne.
Monaco donc qui explore une piste anglaise, la piste Sturridge.
Et oui, Sturridge qu'on pense tous qu'il a 35 ans alors qu'il n'a que 29 ans, il est encore très jeune comme attaquant.
Est-ce qu'il a retrouvé son chien, le pauvre?
Alors oui, il a retrouvé son chien. Il avait un problème avec son chien, donc merci Jonathan pour cette information. Le mercato animal est fini. Donc on le disait, Sturridge, c'était une piste envisagée par l'AS Monaco avant Wissam Ben Yedder, mais c'est un profil qui ne plaisait pas trop à Leonardo Jardim. Mais c'est une piste qui reste quand même en veille au cas où Falcao partait du côté du Galatasaray. On pourrait peut-être voir Sturridge du côté de Monaco.
Et au cas où, Florent Thauvin partirait aussi. Plus comprendre.
Plus sérieusement,
on a parlé de Marseille. Sturridge
à Marseille.
C'est ça. Si Florent Thauvin part, apparemment, c'est.
Mais c'est très cher. C'est 15. Sturridge. Non, mais en salaire. Suivant ça, l'Olympique de Marseille.
Au bout d'un moment, faut quand même un petit peu mettre, comme dirait Godin.
Visiblement,
il va falloir mettre les sous.
Oui, ils ont pas l'intention.
Un petit peu, là. Arrêtez les années.
Comment tu fais, Godin?
Il va falloir mettre les sous.
C'est bien, Godin.
On va parler d'un champion du monde.
Non, c'était horrible.
Un champion du monde français.
Enzonzi. On en parlait hier. Il arrive donc du côté de Galatasaray. Alors, il est prêté. C'est ça qui est intéressant d'analyser. Il est prêté une saison avec une option d'achat de 16 millions d'euros. Si Galatasaray veut prolonger le prêt pour une deuxième saison, il faut payer 500 000 euros. En gros, ce qu'on comprend dans le message, c'est que l'AS Rome veut absolument se séparer de Steven Nzonzi, donc la tâche est facilitée. Et l'option d'achat passerait de 16 à 13 millions d'euros en cas de prêt lors d'une deuxième année. Donc voilà, il arrive à Galatasaray.
Ils ne l'élèveront pas au bout de la première année, ça c'est sûr.
Tu penses que ça va faire qu'un an de prêt ?
Non, d'après ce que tu dis, c'est sûr qu'ils vont, s'ils veulent l'acheter, ils lèveront l'option au bout des deux ans. Quoi.
Ça sera 3 millions d'euros moins cher.
Ouais, bah oui, ce serait bête. Non, mais c'est incroyable.
Pourtant, on en a parlé beaucoup, hein, dans les, notamment à Lyon, à Rennes.
Mmh.
Donc, après, c'est un joueur qui a quand même de la qualité, qui a fait de belles saisons en Espagne. Maintenant, je comprends pas trop pourquoi il a pas réussi à s'imposer à la Roma. Galatasaray, ça reste un beau club européen.
Alors, Galatasaray, une très belle équipe. On a regardé le 11 qui peut se.
Seri Belanda au milieu.
On parle de peut-être l'arrivée de Falcao. Il y a des bons joueurs. Il y a Mariano à droite. Il y a Ngatomo, l'ancien latéral de l'Inter à gauche. Mousselera qui est là depuis un moment.
Ils ont des moyens quand même, hein, Galatasaray, hein, pour recruter.
Il y a une belle équipe.
Et puis, alors, cette déclaration, la déclaration du jour, on va dire, en Ligue 1 de Max Alain Gradel.
Que tu apprécies, François, puisqu'on en a parlé lors.
Kevin s'étonnait de ne pas le voir dans
Alors, déclaration de Max Alain Gradel qui dit. Alors, il parle du fait qu'il reste à Toulouse. Et il dit, je ne suis pas parti, pour être honnête. En tout cas, on peut lui reconnaître son honnêteté. Il dit, je ne suis pas parti parce que je n'ai pas eu d'offre de grand club. Donc voilà. La saison dernière, il avait dit qu'il avait le niveau du Paris Saint-Germain. Cette été et dit qu'il n'a pas eu d'offre de grand club, donc c'est pour ça qu'il est resté à Toulouse. Mais il a aussi dit qu'il aimait le projet toulousain.
Oui.
Il faut quand même... rendre à César ce que c'est à Max
Alain Gradel à Marseille, un Max Alain Gradel à Monaco,
ça.
Même c'est ce à que Lyon disait, pour l'orientation.
C'est, je ne sais pas, si Marseille pour lui, il y a vraiment eu des propositions, ou si pour lui, non, il se considérait comme un grand club pour lui. Mais c'est a priori mieux que Toulouse, on est d'accord. C'est très étonnant qu'un club comme Marseille ne soit pas, n'ait pas tenté le coup en tout cas.
Moi, je l'aurais bien vu retourner à Saint-Étienne. J'ai laissé un bon souvenir là-bas. Mais bon, là maintenant ils sont complets sur les côtés. Mais c'est un bon joueur et je trouve ça dommage qu'il reste à Toulouse, c'est sûr.
Oh bah t'es gentil pour les supporters de Toulouse.
Je pense qu'il mérite mieux.
Il mérite mieux. Bon après, je suis pas sûr. Moi honnêtement, je suis pas sûr que Max Alain Gradel mérite beaucoup mieux que Toulouse. Il aurait pu peut-être faire un petit pas dans
sa
carrière.
Mais tu t'étonnais pourtant la semaine dernière, tu disais.
Non, c'était pas moi.
Ah, c'était pas
non.
toi.
Non.
Ah non, c'était Fred Piquion.
Voilà.
Bah, en tout cas, c'est... Désolé. En
tout cas, le même poste, le même profil.
Non, pas... Au bout de 4 heures, je ne sais plus à qui je parle. Ça va, Fred? Tout va bien?
Ça va. Non, mais on est tous les deux d'origine martiniquaise. Ça compte.
Ah, voilà. Ah. Ça devait être pour ça.
Moi, il y a un peu de Portugal dedans. Mais, mais sinon, non, je pense que Max Alain Gradel, pourquoi pas à l'étranger, mais maintenant en France.
Il avait une belle cote en Angleterre, c'est des bons souvenirs
voilà,
là-bas.
Pourquoi pas en Angleterre, ouais, c'est blessé. Bon, c'est trop tard, mais ils sont quand même assez friands de.
Et il a dit qu'il avait eu des propositions de clubs anglais, mais pas d'un standing suffisant pour lui.
Dommage.
En gros, c'était de la Championship, quoi.
Ou du maintien en Première Ligue.
Ok. Bon, bah, vaut mieux rester à Toulouse. Il est bien à Toulouse.
Allez, puisqu'on en a parlé un petit peu.
En Ligue 1 encore, Toulouse.
On va revenir là-dessus quand même sur cette info.
C'est méchant avec Toulouse,
toi. C'est important, c'est la conférence de presse de Zidane et il compte deux renforts de son effectif.
Et oui, deux renforts de son effectif. Deux gauchers, Gareth Bale et donc James Rodriguez. Alors, Zidane le dit en conférence de presse, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Zizou qui le dit. Quand Zizou dit quelque chose, attention messieurs.
Bien sûr.
Je ne veux pas vous entendre critiquer. Il dit, ce sont des bons joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà?
On est d'accord.
Voilà. Déjà, bon, là, je vous aime un peu plus. Vous avez un peu
pour
plus
Gareth Bale de golf, c'est un bon joueur.
Non, il dit que c'est deux bons joueurs et qu'il les a maintenant dans l'effectif. Il dit, non, alors.
C'est un super joueur, Gareth Bale.
Il dit une chose importante. Il dit que dans le foot, les dynamiques changent. Donc, c'est possible que maintenant, il puisse compter sur eux. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé tout à l'heure en conférence de presse.
Tu dévalues pas ton produit quand tu veux le vendre aussi.
Tu penses que c'est une stratégie?
Ah, c'est pas ce que tu disais hier.
Bah, si, c'est justement, c'est ce que je te disais
Leonardo
hier.
Par rapport
c'est exactement
Neymar,
ce que je te disais. Je disais que Neymar remettait un petit coup de brosse à reluire pour que Neymar, voilà, il reste quand même un peu attractif. Et je pense que Zidane, c'est un petit peu pareil. Après, est-ce qu'il compte vraiment sur eux? Il a quand même beaucoup de joueurs, sur à ces postes-là. C'est pas
la perte de Asensio sur blessure.
Je sais pas si t'es d'accord avec moi aussi, mais moi, je pense quand même que Gareth Bale, alors, il a pas raté sa carrière parce qu'il a fait quand même de belles choses avec le Real. Mais j'ai toujours pas compris comment ce joueur a fini par jouer ailier droit alors que c'était un arrière gauche exceptionnel.
Totalement d'accord. Bah tu sais,
j'ai pas compris.
C'est ce match-là qui fait la dynamique.
Non mais ce qu'il faisait et aujourd'hui quand on voit les latéraux modernes, ce qu'il leur a demandé, c'est-à-dire de la percussion, de la vitesse, du coffre, parce que c'est quelqu'un qui court. Hein. J'ai jamais compris pourquoi il jouait attaquant, ailier droit.
Il faudrait s'orienter vers un spécialiste. Tout à l'heure, j'entendais Fred Hermel avec vous et qui donne un chiffre très intéressant. Il dit qu'il a participé à 56% des minutes. Seulement sous le maillot lors des matchs sous le maillot madrilène, donc je pense qu'il y a un problème physique et ça c'est seul les spécialistes.
Un problème de motivation aussi.
Seuls les spécialistes peuvent y répondre peut-être.
Après, il a quand même un énorme salaire, donc c'est pour ça qu'il est pas parti.
Mais il a quand même fait de belles choses avec le Real Madrid.
Tu sais ce que disaient les médias néerlandais lors de la confrontation face au Real entre l'Ajax et le Real. Ils disaient et c'est vrai donc que le salaire annuel de Gareth Bale c'est la masse salariale annuelle de l'Ajax de l'an dernier.
C'est pas étonnant. Hein.
C'est quand même incroyable.
Ouais. Incroyable pour ce joueur, donc Gareth Bale qui sera dans le groupe et on suivra ce match Celta Vigo Real Madrid demain donc sur RMC. David Neres a prolongé à l'Ajax, ça c'est une
c'était
spéciale
dans les papiers,
pour
c'est
Kevin.
Parce que Kevin était là.
C'est la transition.
C'était dans les papiers depuis un certain temps, c'est désormais officiel, il prolonge l'attaquant brésilien de 22 ans, prolonge donc jusqu'en 2023 pour le grand bonheur de Kevin Diaz ici.
Mais tu sais pourquoi il prolonge? Il prolonge parce que il a eu des offres, notamment de Chine, mais très très intéressantes pour lui. Mais il a choisi de rester à l'Ajax parce qu'à l'Ajax, tu progresses en fait. À l'Ajax, il peut devenir un meilleur joueur. Et l'argent, il l'aura. En tout cas, je le souhaite. Et je trouve que c'est je parlais de Dembélé, de choix intéressants de carrière. Je trouve que pour David Neres, c'est le cas également.
Et puis l'info pour Jonathan. Pour le
il
coup,
a besoin de progresser. Hein,
celle sur Mario Balotelli qui enfin a trouvé un point de chute.
Alors, c'est pas le Flamengo, c'est pas le Brésil. Non, on pensait qu'il allait aller au Brésil.
C'est mignon.
Mais il retourne à la maison. Il retourne à Brescia, la ville dont il est originaire. Promu en Serie A. C'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être dans les prochains jours.
Ça se sentait quand il avait l'air sur Instagram d'être plus motivé par la montée de Brescia que par les matchs de l'OM, fête géante chez lui avec tous ses copains et tout. Bah écoute, c'est une belle histoire. Si au moins ça peut le décider à faire, voilà, avoir le maillot, l'amour du maillot qu'il va porter à faire une saison complète, c'est très bien. Et si on n'a plus d'infos mercato, Je vais juste faire la bise, on les a reçus là cet été, les joueurs qui ont fait le stage de l'UNFP, qui ont toujours pas de club.
Momo Larbi,
exactement. Super bon gars
très
en plus.
Très bon joueur international tunisien.
Ben on l'embrasse.
Anormal qu'il ait pas de club. Billy Ketke au Fanfan aussi. Très bon, voilà, très bon, qui a apparemment remis ses blessures. Donc j'espère qu'ils vont trouver. Il reste un petit peu de jours pour trouver.
Bon, là on parle de bon. Ouais.
Et chez qui nous écoute, donc on leur fait la bise.
Jusqu'au
2
septembre,
mecs.
Donc le mercato, mais eux ils peuvent encore être recrutés.
Exactement,
après.
Comme ils sont libres, ils peuvent être recrutés après.
Voilà, merci beaucoup Oussem. Merci Oussem pour toutes ces infos mercato. À bientôt sur RMC, évidemment. Demain, 17h30, Nantes-Marseille. Hein,
oui.
Avec Benedetto, le premier but de Benedetto.
Ouais, on m'a demandé, je vais refaire un live avec des images entières, juste des images de phoques. On m'a demandé, je vais faire tous les matchs.
Okay. François ne comprend pas ça, tu sais.
Non, mais je vais aller sur quand même les réseaux sociaux quand même. Ouais. Ça va, je suis
un live du match avec des images de phoques.
Merci Oussem. Merci Jonathan. À bientôt. Merci Kevin. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis dans l'after. Demain, ça sera avec Thomas Desson et bien sûr tous les matchs de Ligue 1 à suivre sur RMC. À bientôt.
RMC, l'after foot.